À travers la Bible, on a l'impression que Dieu cherche ses mots et ses images pour nous dire ce qu'il veut vivre avec nous. Voici venu le temps des noces. Voici venu le temps des noces. Et finalement, il va nous inviter ce matin à relire notre histoire et à entrer dans notre histoire comme dans une histoire nuptiale entre Dieu et chacun de nous. Trois textes de Paul sont à la base de cette vision nuptiale de la vie chrétienne ou de l'initiation chrétienne. Ces trois textes, Chrysostome les utilise abondamment. Le premier est tiré de la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 2. « Je vous ai fiancé à un époux unique, comme une vierge pure à présenter au Christ. » Deuxième texte, tiré de la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 25 à 27. « Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne, car il voulait se la présenter à lui-même. » Et dernier texte, Éphésiens 5, 31-32, « L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. » Ce mystère est de grande portée, je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. À partir de ces trois textes, Chrysostome transposera sur l'initiation chrétienne le symbolisme nuptial de son temps, et il rejoint toute l'Écriture où Dieu n'a qu'un désir, c'est de celui de nous unir à lui, de célébrer de véritables noces avec nous. Alors je suis obligé de dire un mot de la célébration des noces au IVe siècle, car Jean Chrysostome va construire sa vision et ses homélies à partir de ce qui se vivait au IVe siècle. Eh bien, à ce moment-là, le mariage était une affaire de famille. Il se traitait entre parents. Et sauf exception, ni le jeune homme ni la jeune fille n'avaient leur mot à dire dans le choix d'un conjoint. Ils devaient se soumettre à la décision prise par leurs parents, et bien souvent même, ils attendront le jour des noces pour faire connaissance. C'était la pratique. Oh, les choses ont bien changé, mais il y a encore des endroits où j'ai vu exactement ce type de pratique dans un certain nombre de pays africains, subsahéliens, on voit une pratique à peu près semblable. Même si on peut penser que même à Antioche, les garçons et les filles se connaissaient quand même, au moins dans certains quartiers. Les tractations, alors voilà ce qui sera intéressant, les tractations entre les familles sont souvent longues et difficiles. L'enjeu est de taille et tous les parents du monde cherchent un beau parti pour leur enfant. Alors d'un côté, des cadeaux viennent montrer combien l'épouse est désirée et sera choyée, et de l'autre, une dot est prévue, préparée. Oh, la dot, elle n'a disparu qu'il y a peu de temps en Europe, et dans beaucoup de pays, elle existe encore. Avec un peu d'humour, je peux vous faire rire, car je me souviens d'une étudiante tchadienne qui venait de rentrer d'Europe et elle voulait se marier, elle hésitait à faire ce que la coutume demandait, c'est-à-dire de payer la dot. Et quand même, quand elle a appris qu'elle valait 7 chameaux, ça lui a fait un coup. Mais c'est une réalité toujours actuelle, mais qui a sa signification. Car là encore, c'est une union entre deux clans, entre deux familles. D'un côté, il y aura une multitude de cadeaux et de l'autre, une dot. Mais nous sommes au IVe siècle, c'est ce qu'on m'a demandé de vous présenter. Hein. Le cheminement à partir de la vision de Jean, qui était un homme merveilleux, car il connaissait la Bible pratiquement par cœur, ce que je vous souhaite à tous, car il ruminait en permanence la parole de Dieu.